Oui, je m'appelle Pierre Bolduc et on voit que l'Église a changé, l'Église a grandi, on loue le Seigneur, c'est super. Mais ma prière à moi, c'est que pendant les 3 jours qu'on va passer ensemble, que Dieu puisse nous visiter. Vous croyez ça, que Dieu peut nous visiter? C'est notre prière, que Dieu nous visite, que Dieu nous touche, que Dieu nous parle par sa parole, qu'il nous donne d'expérimenter ensemble sa présence et son intimité d'une manière toute spéciale. Vous priez comme ça, vous aussi? C'est ce que vous avez envie de voir Dieu faire? C'est ce qu'on veut voir faire. Et on en a parlé tout à l'heure, les 3 messages, c'est sur les vertus théologales. La foi, l'espérance et l'amour, c'est les 3 grâces de Dieu. C'est 3 vertus produites par Dieu en nous-mêmes, 3 attitudes du cœur qui caractérisent notre relation avec Dieu, 3 postures devant Dieu aussi, la foi, l'espérance, l'amour. Et je dirais qu'on ne peut pas être chrétien sans avoir goûté quelque chose de ces réalités-là. Alors, imaginez. Imaginez être chrétien et ne pas avoir la foi. Possible ça? Non. Est-ce qu'on peut s'imaginer suivre Jésus si on n'a pas d'espérance? Non plus. Comment dire qu'on est un disciple de Jésus-Christ aujourd'hui si on n'a pas d'amour? Voyez, ces 3 vertus-là sont hyper importantes, fondamentales pour notre vie avec Jésus, pardon. En fait, la présence de ces vertus-là dans notre vie, elle indique notre niveau de maturité. Puis là, je vais expliquer. Plus un chrétien va être mature, plus il va avoir la foi. Plus il va être mature, plus il va espérer en Dieu. Plus il va être mature, plus il va aimer aussi. Vous voyez? La foi, l'espérance et l'amour indiquent notre niveau de maturité. Alors, je me propose de développer une de ces 3 vertus à chaque fois que je vais apporter la parole pendant cette retraite. Et on va commencer aujourd'hui par la foi. La foi. En fait, une petite expérience. On se rend au centre commercial de notre ville, là où vous habitez, et là, on pose la question à Monsieur Tout-le-Monde, qu'est-ce que c'est que la foi? Eh bien, je vous dirais qu'on risque d'avoir toutes sortes de réponses, et pas nécessairement des réponses en harmonie les unes avec les autres. Il y a peut-être autant de définitions de la foi qu'il y a de personnes qui habitent, autant de définitions de la foi qu'il y a d'individus, on a l'impression parfois. Alors, pour certains, vous demandez qu'est-ce que c'est que la foi, ils vont vous dire que c'est pratiquer une religion. Ou d'autres, vous allez leur demander c'est quoi la foi, c'est croire en quelque chose, peu importe en quoi tu crois. Par exemple, des personnes vont dire moi je crois en Bouddha, ou moi je crois en l'horoscope, ou moi je crois en moi-même. Mais posons-nous la question, c'est quoi avoir la foi selon la Bible? C'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? C'est quoi la foi selon la Bible? Alors, dans l'optique biblique, avoir la foi, c'est croire, bien évidemment, c'est sûr, mais pas croire n'importe quoi. La foi chrétienne a un contenu. Elle a des contours précis. Un chrétien, par exemple, va croire que Jésus est Dieu. Si tu es chrétien, tu dois croire que Jésus est Dieu. Un chrétien croit que le salut, c'est une grâce, c'est un cadeau gratuit que Dieu nous fait, que c'est par sa mort et sa résurrection que Jésus nous sauve. Un chrétien croit ça. Et à contrario, on pourrait dire qu'un chrétien, par exemple, ne va pas croire en la réincarnation. Après la mort vient le jugement. Un chrétien ne va pas croire qu'on se sauve en accomplissant toutes sortes de rites religieux, par exemple la circoncision ou d'autres rites qu'on peut trouver dans les religions. Et ça, c'est ce qu'on appelle le côté objectif de la foi, son contenu. Mais ce n'est pas le seul aspect de la foi. Il y a un autre aspect tout à fait fondamental à la foi chrétienne, c'est l'attachement personnel à Jésus. Ça, c'est important aussi. On pourrait appeler cet aspect-là le côté subjectif de la foi, et je dois dire en passant que ici, le mot subjectif n'est pas négatif du tout. La vraie foi chrétienne, ce n'est pas seulement une connaissance historique ou académique ou livresque des choses. La foi chrétienne, c'est faire confiance en une vraie personne, Jésus-Christ, c'est important. Un chrétien en santé croit dans les bonnes choses, un bon contenu, c'est absolument essentiel, mais il s'appuie aussi sur la bonne personne, Jésus-Christ. Ça, la foi chrétienne, le côté objectif et le côté subjectif. Un bon contenu et on s'appuie sur la bonne personne. La foi est tellement importante dans la vie d'un chrétien qu'il y a une référence de la Bible qui affirme que sans elle, c'est impossible de plaire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette référence-là? Sans la foi, impossible de lui être agréable. Qui connaît cette référence-là? Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Ils doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. Tu pourrais aller à l'église à tous les jours, donner plein d'argent aux pauvres, tu pourrais jeûner plusieurs fois par semaine. Si tu n'as pas la foi, tu ne fais pas plaisir à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Alors pourquoi est-ce que la foi est si importante aux yeux de Dieu? C'est parce que la foi nous ramène à l'instant T dans l'histoire de l'humanité où tout a basculé. L'instant T où tout a basculé pour l'être humain. C'est ce moment dans Genèse chapitre 3 où Ève a cessé de faire confiance aux paroles de Dieu. C'est quand Adam a décidé lui aussi de faire confiance au serpent plutôt qu'à Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'entre Dieu et l'être humain, il y a eu une profonde rupture. Et voyez-vous, quand Dieu veut nous faire revenir à lui, quand Dieu veut nous rétablir dans une relation juste avec lui, il nous demande de choisir de lui faire confiance et de faire confiance à sa parole. Mon juste vivra par la foi. Un nouveau style de vie. Alors, comme premier passage aujourd'hui, j'ai choisi un texte bien connu du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, un texte qui nous présente la galerie des héros de la foi, Hébreux 11, on va lire des versets 8 à 19, et c'est au travers de la vie d'Abraham que je me propose d'explorer les trois vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance, l'amour, mais ici c'est la foi. Donc, Hébreux chapitre 11, mais avant d'aller plus loin, commençons par se poser la question, qui est Abraham? Ici, il y a des personnes qui ont lu la Bible depuis longtemps, vous connaissez certaines de ces choses-là, mais qu'est-ce qu'on sait en fait d'Abraham? Alors Abraham, il est originaire de la ville d'Our, en Chaldée, c'est l'Irak moderne. Abraham vient d'une famille polythéiste, ses parents, sa famille croyaient en des idoles, toutes sortes de dieux. Son père Térak, c'était un adorateur de la lune. Et on dit qu'Abraham, c'est l'ancêtre et le fondateur du peuple d'Israël. Et vous connaissez cela dans la tradition judéo-chrétienne. Abraham est appelé le père de tous les croyants. Voilà pour le profil d'Abraham. Alors, dans notre texte ce soir, il y a quatre grands moments de la vie d'Abraham où sa foi a été rudement mise à l'épreuve et ça va être les quatre points du message de ce soir. Premier point, lors de son appel, verset 8. Deuxième point du message, lorsqu'il a reçu la promesse d'un pays, versets 9 et 10. Troisième point, quand Dieu lui a promis une descendance, versets 11 et 12. Et quatrième point, quand il a dû offrir son fils Isaac au Seigneur, versets 17 à 19. Alors, on va regarder ces quatre moments ensemble pour découvrir maintenant à quoi ressemble une vie marquée par la confiance en Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que nous voulons, nous aussi, avoir une vie qui est marquée par la confiance en Dieu. On va commencer par son appel. On va lire Hébreux, chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. Comment est-ce que la foi d'Abraham est née dans son cœur? Comment est-ce que c'est apparu cette foi-là? Je pense qu'il va sans dire qu'Abraham, il n'a pas produit en lui-même la foi dans son cœur. Il n'y a pas eu de génération spontanée là, dans le cœur d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Abraham ait la foi? c'est Dieu qui l'a appelé. Dieu l'a appelé. La foi, c'est toujours une réponse à un Dieu qui parle. Vous connaissez Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu a parlé. Donc, pour Abraham, tout commence quand Dieu l'interpelle. Et quand on y pense, ça n'allait pas du tout de soi qu'Abraham suive Elohim, qu'Abraham suive le Dieu unique. Après tout, Abraham n'avait jamais entendu parler de lui, ce Dieu unique. Abraham ne connaissait rien à son sujet. Alors, essayons de se mettre un instant à sa place. Si un inconnu vous appelle à le suivre, hein, un gars qui passe dans la rue et puis te dit « suis-moi », est-ce que vous allez le faire? A priori, non. On ne suit pas naturellement quelqu'un qu'on ne connaît pas. Sauf peut-être mon fils Joël, quand il était petit. Quand il était petit, il suivait des parfaits inconnus et ça nous inquiétait beaucoup. On tournait la tête un petit peu et voilà que Joël était en train de suivre un étranger. Je vous rassure, il ne fait plus ça maintenant. Mais c'était quand même un peu inquiétant. Mais voyez ici, Abraham a suivi les ordres d'un Dieu dont il n'avait jamais entendu parler. On peut s'imaginer que l'appel du Seigneur a été si fort, si convaincant, si contraignant, même qu'il s'est senti poussé à obéir. Alors, première particularité de la foi d'Abraham, et je dirais de toute véritable foi, c'est qu'elle répond à la parole de Dieu. Dieu a parlé à Abraham, Dieu l'a appelé. Alors, une question s'offre à nous ce soir. Est-ce que Dieu, à notre époque, appelle encore des hommes, des femmes, des enfants? Qu'est-ce que vous pensez? Amen. La Bible est remplie d'exhortations à venir à lui, à le suivre. C'est l'appel de l'Évangile. Dieu appelle encore des personnes qui ne le connaissent pas, des personnes qui vivent loin de lui. Et si on posait la question ici, parmi nous, quelqu'un qui puisse nous expliquer comment Dieu l'a appelé, on aurait plein de témoignages. Des personnes qui ont entendu l'appel de Dieu, qui ont répondu. Alors peut-être que pendant ce week-end, certains vont reconnaître l'appel de Dieu et venir à lui. C'est ma prière la plus ardente. Abraham a donc entendu l'appel de Dieu. Alors on va examiner ensemble d'autres caractéristiques d'un croyant qui est appelé à partir du texte de Hébreux 11, 8 à 19. En plus de répondre à sa parole, on a vu dans notre texte que Abraham s'est mis en marche. Abraham s'est mis en marche. C'est donc sa foi qui l'a amené à bouger. Une foi en action. Question. Est-ce qu'on aurait pu reconnaître la foi dans le cœur d'Abraham s'il avait entendu Dieu lui parler et s'il était resté chez lui sans rien faire, les bras croisés? Est-ce qu'on aurait pu voir sa foi? Non. Non. Pour prouver qu'il avait la foi, il fallait qu'Abraham avance. Même chose pour nous. On a appris que c'est la foi seule qui nous sauve. Sola fides, un principe important que la réforme protestante nous a laissé. Mais Martin Luther, un grand réformateur allemand, il a dit que la vraie foi sauve, la foi seule, mais la vraie foi ne vient jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'œuvres. Elle nous met en marche. Elle produit un beau fruit d'obéissance. Alors, si notre foi aujourd'hui ne produit pas un mouvement d'obéissance dans notre vie, eh bien, je dirais qu'on est en droit de se demander si ce qu'on est en train d'expérimenter, c'est vraiment la foi biblique. La vraie foi répond à la parole de Dieu. La vraie foi nous met en marche. Mais la vie d'Abraham met en relief une autre caractéristique d'une foi véritable. La foi d'Abraham s'est aussi caractérisée par son côté simple et direct. C'est ce que l'apôtre Paul appelle dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 3, il appelle ça la simplicité à l'égard de Christ. Abraham n'a pas eu besoin d'avoir tous les détails du plan de Dieu pour bouger. On est comme ça parfois, nous. On veut que Dieu nous donne tous les détails, puis là, on va bouger. Abraham n'a pas eu besoin de ça. On n'a pas besoin non plus de tout comprendre des desseins éternels de Dieu pour cheminer avec lui. Il nous suffit d'une parole claire. Suis-moi. Repens-toi. Crois. Suis-moi. Quand Dieu nous demande de lui obéir, il ne nous demande pas forcément de tout savoir. Et je dirais que l'apôtre Pierre illustre très bien notre propos ici. Pierre avait prêché toute la nuit, c'est-à-dire qu'il avait péché toute la nuit. Il avait péché toute la nuit sans rien prendre. C'était son métier, c'était un pêcheur chevronné, beaucoup d'expérience. Et là, Jésus lui demande de jeter le filet en plein jour, au moment où le poisson reste au fond de l'eau. Gros test de foi pour lui. Qu'est-ce que Pierre fait ? Pierre décide de faire confiance à Dieu, la foi. Pierre lance son filet et se remplit de poissons tellement que le filet est prêt à rompre. Jésus n'a pas eu besoin de tout expliquer à Pierre. Pierre avait une foi simple et directe. Jésus avait commandé et ça lui a suffi. Quand Janine et moi, on est parti en France avec Joël, il y a plus de 32 ans derrière. On n'avait pas reçu tous les détails du plan de Dieu pour nous. On ne connaissait pas tellement la France. On n'avait pas beaucoup de détails sur le fonctionnement des églises. Mais on lui a fait confiance, pas toujours aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Et le Seigneur nous a révélé sa volonté étape par étape. Petit à petit, progressivement, Dieu nous a demandé d'avoir une foi simple et directe. Et c'est une leçon qu'on a souvent besoin de réapprendre, même aujourd'hui. Parce qu'encore aujourd'hui, on est tenté de vouloir tout savoir avant de se mettre en marche. Alors je récapitule. Quand un homme a la vraie foi, c'est la parole de Dieu qui a produit cette foi en lui. Quand une personne croit vraiment, sa foi le fait toujours avancer. Sa foi le fait aussi obéir, même si les détails manquent. Question. Est-ce que notre foi, ce soir, ressemble à celle d'Abraham? Est-ce que notre foi est comme ça? Alors, on va passer maintenant à notre deuxième point, vous vous souvenez? Hébreux 11, 9, la terre promise. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Voyez, la foi d'Abraham est multidimensionnelle, elle a plusieurs aspects. Cette foi qu'Abraham a découvert et qu'il a vu grandir dans son cœur, elle l'a amené de la ville d'Our en Chaldée jusqu'en Canaan. Vous savez combien il y a de kilomètres entre Our en Chaldée et Canaan? 1150 kilomètres. 1150 kilomètres. Et sa foi l'a finalement amené à s'installer dans un pays déjà occupé. Parce qu'il faut savoir que Dieu l'appelle à aller dans un pays et que ce pays-là est déjà rempli de personnes. Les Cananéens étaient bien installés partout sur le territoire et rien ne laissait présager qu'ils laisseraient leur terre à ce nomade inconnu. C'est pas rien, ça. Dieu lui dit, tu vas aller là, le pays est à toi, et il y a plein de monde dans le pays. Ouh. La foi d'Abraham est une foi qui lui a permis de saisir ce qui n'était pas encore là. Une foi capable de percer l'invisible. Et l'Évangile nous appelle à avoir une foi qui ressemble à ça, mes amis. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais c'est dans la nature de notre foi de s'attacher aux choses invisibles. Déjà, nous, on croit en un Dieu qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Les païens, à l'époque d'Abraham, avaient des idoles qu'on pouvait voir. Ils avaient des statues dans leurs autels et des statues domestiques qui étaient bien en vue, parfois sur des tablettes. Ils rendaient un culte aux astres, à des créatures qu'on pouvait observer dans la nature. Mais le Dieu d'Abraham est esprit. On ne le voit pas. En plus, Dieu nous demande de nous attacher à des promesses dont on ne voit pas encore totalement l'accomplissement. Exemple, Dieu nous dit, je vais revenir. Le retour de Jésus. Dieu nous dit, un jour, vous aurez un nouveau ciel, une nouvelle terre. Vous aurez un corps glorifié. Moi, je suis chrétien depuis 48 ans et je n'ai pas encore vu ces choses-là se réaliser. Mes amis, nous marchons par la foi et non par la vue. La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens nous dit « Les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. » Voyez, on a une foi qui perce l'invisible pour saisir les réalités spirituelles qui ne sont pas encore observables de nos yeux physiques et humains. Jésus n'a-t-il pas dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Il a affirmé à Marthe, qui venait de perdre son frère Lazare, il lui a dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». L'ordre est important. L'apôtre Pierre va dans le même sens quand il parle de Jésus. Il dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Voyez ? Avons-nous ce genre de foi? Est-ce que c'est ça notre foi? Alors une personne qui a cette foi-là regarde le monde avec des yeux neufs. Cette confiance-là qu'il découvre lui permet de fonctionner comme si la promesse était déjà accomplie. Exemple, quand on habitait à Marne-la-Vallée en France, on était à peine à quelques kilomètres de Disneyland Paris. Et de chez nous, on entendait le bruit des manèges pendant l'été. Alors, grâce à des amis de l'église, des amis qui travaillaient à Disney, ça nous arrivait d'avoir des entrées gratuites pour les enfants. Cool, hein? C'est bien. Alors, au début de la semaine, on pouvait annoncer, par exemple, à Joël, Mathieu, Anne-Sophie, « Hey, les enfants, samedi, on va à Disney. » Nos enfants nous croyaient, même si on était juste au début de la semaine. On leur dit lundi et qu'est-ce qui se passe? Toute la semaine, ils se réjouissaient déjà à l'idée d'aller à Disney. Ils allaient même dire à leurs amis, « Hey, samedi, on va à Disney. » La foi nous fait entrer dans la joie des promesses de Dieu, comme si on les possédait déjà. Amen. Amen. C'est ça que ça fait la foi. Et c'est ce genre de foi-là que Dieu nous donne. Abraham a entendu parler Dieu et il a été convaincu. Abraham n'a pas vu la réalisation de toutes les promesses de Dieu de son vivant. Il en a vu quand même quelques-unes, la naissance d'Isaac. Mais le texte dans Hébreux 11, verset 13, nous dit qu'il ne les a pas vus, mais il les a salués de loin. La foi, c'est la foi. Je récapitule. Abraham a manifesté sa foi lors de son appel. Abraham a exercé sa foi quand Dieu lui a promis un pays. Un autre moment fort de la vie d'Abraham, c'est quand Dieu lui a fait la promesse qu'il aurait une descendance nombreuse. Je lis versets 11 et 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Vous êtes d'accord avec moi? C'est déjà extraordinaire pour un jeune couple sans problème de fertilité. Déjà extraordinaire d'apprendre qu'un bébé va naître de leur union. Je pense que c'est arrivé avec Benjamin et Rachel il n'y a pas longtemps et peut-être d'autres dans l'église. Hein? Une bonne nouvelle. Une naissance. Mais quand un couple est âgé, quand la femme est stérile, eh bien là, je dirais que la foi est rudement mise à l'épreuve. Dieu demande à Abraham et à sa femme de croire à l'impossible. Ils sont vieux, la femme ne peut pas avoir de bébé. Croire au miracle. La foi d'un chrétien, c'est aussi une foi qui est convaincue que le Dieu qui nous a appelés est capable de faire ce que le commun des mortels ne peut pas faire. Dieu va montrer à Abraham qu'il est bien plus grand que tout ce qu'il a connu jusqu'à maintenant. Il est capable de lui donner un pays, même si ce pays appartient déjà à un autre peuple. Il est capable de donner une descendance à un homme de 100 ans et à une femme de 90 ans qui est stérile. Il est capable de pouvoir pourvoir aux besoins de ce nomade qui arrive au pays de Canaan sans rien à lui. À quoi ressemble le Dieu que vous suivez? À quoi ressemble le Dieu que vous suivez? Est-ce qu'il est aussi le Dieu du surnaturel? Le Dieu qui peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire? Le Dieu dont la puissance n'a pas de limite? Est-ce qu'il est capable d'intervenir dans votre vie aujourd'hui? Je ne sais pas vous, mais trop souvent, moi, je réduis Dieu à ma dimension, à moi. On a du mal à nous imaginer que Dieu puisse faire des choses qui nous dépassent. Ce que la vie d'Abraham, le père de tous les croyants, nous apprend, c'est qu'il n'y a rien d'étonnant de sa part. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut espérer ou même penser. Tu penses à quelque chose, tu dis « waouh, ça c'est grand ». Mais Dieu dit « hey, pense encore plus que ça. Je peux faire plus que ce que tu penses là. » Le plus fou des trucs, Dieu dit « je peux faire plus que ça ». Ma prière, c'est que on apprenne à faire confiance à Dieu pour les petites choses de notre vie, parce que ça compte, Dieu s'occupe de ça. Mais aussi pour des choses plus grandes, des choses qu'on ne pourrait jamais faire nous-mêmes. Donc Abraham a pris la foi lors de son appel, lors de son installation à Canaan, quand Dieu lui a promis une descendance. Et le quatrième moment de la vie d'Abraham qui a beaucoup à nous apprendre au sujet de la foi, c'est lorsque Dieu lui a demandé de prendre la vie de son fils et de la lui offrir. On va lire les versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, et aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham a attendu longtemps, longtemps avant de voir la promesse de Dieu se réaliser. Vous savez combien de temps il a attendu? 25 ans. 25 ans. On a parfois du mal, nous, à attendre une semaine. Ou peut-être, si on est patient, un mois. Ou peut-être un an, à la limite. En attendant Abraham a essayé de prendre des choses en main. Vous connaissez l'histoire. Il a essayé de prendre les choses en main en couchant avec la servante de Sarah. C'est Sarah qui lui a dit « Couche avec ma servante, tu vas avoir une postérité. » Ça lui a causé beaucoup de problèmes. Et des problèmes qui l'ont poursuivi très très longtemps. Des problèmes qui ont même des ramifications à notre époque. Si vous suivez les actualités, la bande de Gaza. Notre manque de foi nous amène, nous aussi, à vouloir prendre des choses en main au lieu de s'attendre à Dieu. Et ce n'est pas un scoop, là. On n'a pas besoin d'aider Dieu à réaliser ses promesses. Dieu est capable de réaliser ses promesses. Alors, malgré une longue période de silence, Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Quand Dieu promet, il n'oublie jamais. Et quand finalement Dieu est revenu rappeler sa promesse à Abraham 25 ans plus tard, il est venu près de la tente et il a dit « Sarah et toi, vous aurez un héritier. » Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a ri. Isaac, ça veut dire rire. Sarah a ri. « Tu rigoles, Seigneur. Dis-moi que c'est une blague. » Et Dieu lui a répondu « N'a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Dieu a fait l'impossible, un miracle. Contre toute attente, Isaac est né. Et alors qu'Isaac avait 25 ans, parce que nous, on pense que Isaac, c'est un petit bonhomme de 6-7 ans, là, mais Isaac avait entre 25 et 30 ans. Et à cet âge-là, Dieu dit à Abraham, « Donne-le-moi, ton fils. » Alors imaginez les pensées qui devaient tourner dans la tête d'Abraham. « Comment, Seigneur, celui qui va assurer notre descendance, tu veux que je te l'offre en sacrifice ?» Vous voyez, toutes sortes de questions là qui tournaient dans la tête, mais tu vois sa place. « Seigneur, là, je ne comprends pas. Toi, tu condamnes les nations d'alentour parce qu'elles offrent des sacrifices humains. Et tu veux que je fasse comme eux, que j'offre un sacrifice humain. Et puis en plus, comment est-ce que la promesse d'une descendance va s'accomplir si je te l'offre? » Plusieurs questions. Hein? Dieu peut parfois nous demander à nous aussi de faire des choses qu'on ne comprend pas. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Dieu a le droit de nous surprendre. Mais regardez ce qui se passe ici dans notre texte. La foi d'Abraham va triompher. Parce qu'il avait confiance aux promesses de Dieu, il a cru que Dieu était capable de ramener son fils à la vie, même si lui le tuait. Même si je le tue, Dieu va le ramener à la vie. Mais rassurez-vous, on connaît la fin de l'histoire. Il n'a pas eu besoin de tuer son fils. Dieu n'avait jamais l'intention qu'il tue son fils. Dieu n'est pas pour le sacrifice humain, non. Dieu s'est pourvu lui-même d'un sacrifice. Il voulait juste tester, voir si Abraham allait lui faire confiance et s'il le craignait. Dieu accomplit toujours ses promesses. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la vie d'Abraham, les épreuves sont allées comme en crescendo. Et c'est comme ça que sa foi a pu grandir. Parfois, vous avez peut-être l'impression que c'est difficile, les épreuves augmentent, mais c'est comme ça que la foi grandit. Notre foi est plus précieuse que l'or, et l'apôtre Pierre dit qu'elle va certainement être éprouvée. Alors, permettez-moi de récapituler avant de terminer. Dieu ordonne à Abraham de quitter son pays. Dieu lui demande de prendre possession d'un pays déjà occupé. Dieu lui promet une postérité malgré son âge. Dieu commande à Abraham d'offrir l'héritier de la promesse. Quatre moments forts où la foi d'Abraham a été mise à rude épreuve. Et l'Épître aux Romains nous dit « Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. » Sa foi lui a été portée à son compte comme justice. Dans une des paraboles de Jésus, dans le troisième évangile, l'évangile selon Luc, au chapitre 18, le Seigneur vante la persévérance d'une veuve qui demande à un juge inique de lui faire justice. Cette femme, elle est citée comme exemple de foi pour nous tous. Jésus conclut, il termine la parabole en posant une question qu'il nous pose à nous aussi, c'est une question pénétrante. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Je répète la question. Laissez cette question-là pénétrer votre cœur. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? On peut se poser aussi la question, encore plus proche de nous. Est-ce encore possible aujourd'hui, de nos jours, de faire confiance à Dieu comme Abraham a fait confiance à Dieu en son temps? Est-ce que ça existe encore, cela? Est-ce qu'on peut lui faire confiance encore comme à l'époque d'Abraham? Je dirais qu'on a infiniment plus de raisons de faire confiance à Dieu qu'Abraham parce qu'on vit sous la Nouvelle Alliance. Toutes les promesses de Dieu sont « oui » et « amen » en Jésus-Christ. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jésus, c'est celui, l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, qui nous dit « en qui la foi naît et en qui la foi atteint sa pleine maturité ». Il est le chef et le consommateur de la foi. Donc, on l'a compris ce soir, Dieu attend la foi chez tous ceux qui lui appartiennent. Une foi qui répond à sa parole, une foi qui se met en marche, une foi simple et directe, qui n'a pas besoin de tous les détails pour avancer, une foi qui perce l'invisible, une foi qui croit au miracle et une foi qui persévère malgré les obstacles. Question. Est-ce qu'on veut être ce soir agréable à Dieu? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Prions pour que Dieu nous aide à lui faire confiance de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il est parfaitement digne de notre foi. Amen. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour cette condescendance qui fait que tu nous parles. Que ta parole produit la foi en nous. Merci parce que tu nous appelles et ton appel change tout dans notre vie. Merci parce que notre foi, tu la fais passer par toutes sortes d'épreuves pour qu'elle grandisse, pour qu'elle se développe. Seigneur, nous voulons être agréables. Nous voulons marcher par la foi. Nous voulons que notre foi perce aussi l'invisible et nous voulons te demander des choses que nous savons ne pas être capables de faire nous-mêmes. Nous voulons croire que tu fais infiniment au-delà de tout ce qu'on peut espérer ou même penser. Merci Seigneur parce que toutes tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Amen.